Tempo Classique sur RCN, Dominique Bréda.
Bonsoir à tous, nous allons ce soir être en compagnie de voix, et plus particulièrement de voix d'hommes, à l'occasion du concert de gala que donnera pour ses 30 ans le chœur d'hommes Jean Bouillet. Ce concert se déroulera le samedi 8 novembre à 20h dans la basilique du Sacré-Cœur de Nancy. L'idée m'est donc venue de faire cette émission autour de la personnalité de Jean Bouillet. Et pour m'accompagner durant cette heure, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Wettmann, qui est président du Chœur d'Hommes, et Richard Renaudin, qui fut président des Petits Chanteurs de Sainte-Jeanne d'Arc et ami très proche de Jean Bouillet. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Jean Bouillet nous a quittés le 3 septembre 2006, mais tous les amateurs de chant choral connaissent son parcours musical qui est indissociable du chœur qu'il a dirigé depuis 1957, la Malécontrie des Petits Chanteurs de Sainte-Jeanne d'Arc. Alors Richard Renaudin, avant de nous dire quand et comment est née cette Malécontrie, racontez-nous un peu ce qu'est une Malécontrie.
Une Malécontrie, c'est à la base et historiquement, ça a toujours été en fait un chœur de garçons,
oui,
qui était animé soit par un prêtre ou un membre d'une équipe paroissiale, soit par quelqu'un qui était très proche, en fait, d'une équipe paroissiale. Ça, c'est vraiment le fondement. D'accord. On le retrouvera tout à l'heure quand on parlera des Pouvoirs qu'intéresse. Mmh. Mais l'origine est bien là. Chœur de garçons, donc, avec des enfants qui avaient, à partir de 6-7 ans, une participation et une formation extrêmement importante. En fait, l'idée, globalement, d'une Malécontrie, c'est qu'elle devait aller au-delà de ce qu'était une chorale classique et qu'elle devait pouvoir apporter, aussi bien dans un aspect profane que dans un aspect liturgique, une qualité vocale extrêmement importante. D'où le chœur de formation qui a existé pendant quasiment toute la période de Jean Bouillet, chœur de formation où il y avait au minimum entre 25 et 30 jeunes. Donc, les chœurs de jeunes, de manière générale, ont tous un problème de recrutement et de maintien d'une population, puisque un jeune, par nature, s'agrandit.
Ben oui.
Donc, ça sort de la, je dirais, du scope de ce qu'est une chorale, puisque, en général, on y est entre 8-9 ans, voire à peu près stabilisé, jusque vers 14-15 ans, quand on commence des études de manière un peu plus élaborée. Voilà ce qu'était une Malécontrie, en fait. Et on en retrouve dans à peu près toutes les grandes villes françaises, voire dans des villes moyennes.
Oui, les premières étaient adossées donc à des paroisses ou à des choses comme ça, et autour de cathédrales essentiellement.
Bah, Saint-Joseph n'était pas une cathédrale,
ah, oui, oui.
Hein, alors que la Manée a toujours vécu autour de Saint-Joseph. Oui. Alors, bien évidemment, nous faisions et nous faisons, nous a toujours fait l'accompagnement des grandes heures de l'église à la cathédrale, mais le cœur de la Manée, c'était bien Saint-Joseph.
Mmh. D'accord.
Il y avait aussi Saint-Sébastien à l'époque.
Ouais.
Il y avait deux Malécontries sur Nancy.
Ah oui, je ne savais pas ça.
Si, si, Saint-Sébastien était plus orienté scoutisme.
D'accord, ok. Et elle était dirigée par qui ?
Claude Jacquot.
Ah d'accord, ok. Oui, c'est des noms qu'on connaît, mais voilà. Alors on revient au petit chanteur de Sainte-Jeanne d'Arc. La filiation s'est faite rapidement auprès du mouvement Pueri Cantores.
Oh oui, elle était quasi immédiate, dans la mesure où ça donnait à la fois une structuration et une légitimité. Et Jean était très, très attaché à cela. En fait, on avait quand même des chœurs de la fédération tout autour de nous. Mmh. Toul existait déjà, avec le père...
Le Reboulet.
Le Reboulet,
oui.
Célèbre entre tous. Bar-le-Duc existait déjà, avec
oui,
une solide équipe. Épinal existait. Donc, on avait tout autour de nous des chœurs qui appartenaient à cette... À
Verdun aussi.
Verdun également, à l'époque. Donc c'est vrai que la filiation s'est faite immédiatement et a permis tout de suite de pouvoir avoir des échanges, ce qui était très important en fait au niveau de ces chœurs, notamment à travers de festivals communs, réunions communes, etc. etc.
D'accord.
Et l'ADN était le même, parce que nous, à l'heure actuelle, au chœur Jean Bouillet, on a deux choristes qui étaient aux petits chanteurs de Nancy.
Oui.
On en a 5 ou 6 qui étaient aux petits chanteurs de Sainte-Jeanne d'Arc. On en a un qui vient des petits chanteurs de Bar-le-Duc et un autre qui était sur Épinal.
Ah oui, vous avez tout fédéré en fait. C'est bien ça. Bon, on va écouter un petit peu de musique avec le Noël noir.
Jesus,
C'était un des tubes du chant choral, le Noël noir de Francine Cocampo et Raphaël Passacquet. Voilà, alors, on revient peut-être au Puri Cantores, Richard Renaudin. C'est quelque chose d'international.
Les Puri Cantores sont effectivement, est une association internationale qui est d'ailleurs directement reliée à tout ce qui est à Rome.
D'accord.
Nous avions... Alors, j'étais d'ailleurs pendant quelques années commissaire aux comptes.
Oui.
Parce qu'on avait une association sérieuse, avec vraiment des budgets et un mode de fonctionnement très construit, avec des chœurs, certains prestigieux et de renom,
oui.
Sur un plan national. Et c'était toujours intéressant d'aller dans les congrès des Puri Cantores, que ce soit à Rome, à Salzbourg, enfin tu y as déjà été aussi toi, plusieurs fois, parce qu'il y avait une émulation et une compétition.
Mm-hmm.
Le concert final, c'était effectivement... une sorte de concert qui était dédié aux chœurs les plus talentueux ou les plus solides. Et Jean s'était toujours enorgueilli d'être dans le top 4. Quoi.
Oui, oui.
C'était là une réalité. Mais pour les jeunes, c'était bien parce qu'il y avait une confrontation.
Mm-hmm. Hein.
Alors évidemment, comme on était pour les cantores, il y avait une évidence au niveau liturgique,
oui.
Au niveau du répertoire et au niveau de tout ce qui était sacré. Et je dirais que les congrès que nous avons eus à Rome, par exemple, ont été magnifiques. Tu y étais ? Tu as pu y aller ?
Je l'ai fait au moins une fois, oui. Je me souviens de Saint-Pierre, c'était Paul VI à l'époque, on était 5000 chanteurs dans l'église.
Oui, oui. Enfin, j'ai vécu ça aussi une fois. Ouais. C'est assez impressionnant.
Ah, tout à fait, oui. Avec cette grande manifestation, une grande réunion dans la salle juste à côté de Saint-Pierre.
Mm-hmm.
C'était effectivement des occasions extrêmement intéressantes. Donc c'était ça, les Puri Cantores.
Voilà, alors... Qu'est-ce qui fait l'identité d'un chœur comme celui que dirigeait Jean Bouillet ? Qu'est-ce qu'il a apporté ?
Je crois que ça a été au démarrage, l'amour à la fois du chant et de la jeunesse, mais également l'exigence. Il y a eu une exigence permanente d'ailleurs, c'était le nombre des répétitions, tu te rappelles de ça aussi, parce qu'il y avait bien les répétitions communes, mais il y avait des répétitions spéciales TB.
TB, ténor et basse.
Oui, les répétitions pour les plus jeunes, et avec réellement chaque fois...
Et la répétition générale,
exactement.
Par semaine aussi.
Ah, oui. Donc c'était quand même un boulot
il y avait un
et une adhésion extrêmement forte. Alors,
dans le bénévolat tout le temps.
Ah bah évidemment.
Oui.
Ah oui, Jean et Nicole n'ont jamais été rémunérés de quelque manière que ce soit dans cette aventure de 45 ans. Et cette exigence se traduisait en fait dans ce travail commun qui se réalisait. Et aussi bien Jean-Marc que moi, on se rappelle des répétitions que l'on faisait, où il fallait répéter, revenir sur des petits détails qui étaient indispensables pour pouvoir satisfaire Jean. En fait, et c'était ça la volonté, d'arriver à ce que Jean termine en disant, voilà, cette fois-ci, ça me va bien.
Et il faut dire que ce n'était pas du tout son métier, Jean.
Jean était prof de maths à l'origine.
Ah oui.
Enfin, même pas qu'à l'origine, il a toujours été.
Alors, au cœur d'homme, Jean Bouillet... On a deux chanteurs qui n'ont jamais connu Jean en tant que chef de chœur, mais qu'il avait comme professeur de maths.
Il était à Poincar, c'est ça ?
Oui. À Poincar, tout à fait. Il a fait toute sa carrière. Et je crois qu'il a toujours eu des facilités, d'ailleurs, derrière ça, pour pouvoir travailler avec le chœur et l'emmener pour les concerts, les tournées, etc.
Et ça allait plus loin que ça, c'est-à-dire que certains chanteurs ont bénéficié de cours de soutien de maths par Jean, qui les aidait...
D'accord.
Toujours bénévolement.
Oui, on doute bien. On a une idée du nombre d'enfants qui sont venus chanter dans la Manet Country, un comptage qui a été fait.
C'est vrai que si tu regardes, en fait, on était toujours en moyenne 40, 40-45.
Peut-être un peu plus même au début.
Ouais. Oui. Avec alors, si on calcule le taux de renouvellement, en fait...
Allez,
qui est en gros de 5-6 ans, à peu près, entre le moment où tu entres et le moment où tu sors. Je dirais que sur la période, on est au minimum sur 450-500 jeunes, à peu près.
De l'agglomération nancienne,
essentiellement,
globalement,
oui.
Quelques-uns qui venaient peut-être d'un peu plus loin.
C'est essentiellement Grand Nancy.
Oui,
avec deux répétitions, trois répétitions par semaine, on ne peut pas être trop loin non plus.
Oui.
Ah oui, c'est clair.
Oui, mais certains d'ailleurs... qui venait de plus loin, dormait la nuit chez Jean. Hein. Oui. Et c'est Nicole qui assurait le fonctionnement, etc.
D'accord. Alors, on a parlé des répétitions, mais il n'y avait pas que ça dans la vie de ce groupe.
Il y avait énormément, alors, de concerts, évidemment, puisque il y avait tous les concerts traditionnels de l'année, j'allais dire, de l'année liturgique normale, le concert de Sainte-Cécile, chacun se rappelle, qui avait lieu tous les ans à Saint-Joseph. Et puis, les congrès, on en a parlé, les tournées.
Les tournées, ah oui.
Les tournées.
Et l'expérience personnelle, alors moi c'était entre les années 65 et 75, mais quasiment un week-end sur deux, on partait dans les communes à 100 km autour de Nancy. Mmh. On chantait la messe le matin, on était hébergé chez l'habitant le midi, on faisait le concert l'après-midi et on rentrait un dimanche sur deux.
Ah oui, là aussi un réel investissement.
Il y avait ce côté exigence musicale, mais il y avait aussi un côté... éducation, je dirais, qui était important.
Ouais, ouais.
La notion de manécanterie, c'était pas que la chorale, tout au moins à cette époque-là. Hein. Les jeudis après-midi, puisqu'il n'y avait pas d'école le jeudi après-midi, on était rue Jeanne d'Arc, on était pris en charge par les petits chanteurs. Les vacances de Pâques, on partait une semaine en camp, en camping, en maison, avec les petits chanteurs.
Ouais.
C'était en plus des tournées, où là, il n'y avait pas de musical, c'était juste occuper les enfants, éduquer les enfants.
Ouais, ouais, ouais.
Et ça crée des liens qu'on ne peut pas trouver forcément par ailleurs.
Oui. En fait, tout ça a pu exister parce qu'il y avait à l'époque la possibilité effectivement d'être hébergé chez les personnes qui recevaient la chorale.
Mm.
Et ça existait aussi bien dans ce que tu dis, hein, c'est-à-dire les concerts que l'on donnait dans un rayon de 100 km. Ou pendant les tournées. Les tournées où on a été quasiment tout le temps hébergé chez les habitants de tous les pays dans lesquels on est allé.
Et comment on fait pour organiser ça ?
Nicole.
Nicole.
Ah oui, ça c'était vraiment, le point focal de tout ça. Alors évidemment, elle était aidée par Benoît, par Stéphane, par un certain nombre de personnes. Mais toute l'organisation, elle avait un carnet d'adresses phénoménal. Elle connaissait toutes les manées, toutes les... que ça soit au Canada, que ça soit en Pologne, que ça soit en Italie, elle avait des contacts. Et donc, ces contacts permettaient de monter. Et chaque fois qu'on avait un problème, il nous est arrivé, je me rappelle, quand on est parti en tournée en Angleterre, on arrive au bac, au ferry, du côté de Douvres ou de Dunkerque, je ne sais plus. Et là, on apprend que la première tournée tombe, la première étape tombe. C'est-à-dire que la chorale qui devait nous recevoir ne peut pas.
Mm.
Qui est-ce qui a arrangé le coup ? C'est Nicole. Coup de fil dans tous les sens. Et pendant qu'on traversait la Manche, elle a réussi à nous faire reprendre en main par une autre chorale dans un autre village. Enfin, c'était elle qui avait vraiment cette emprise sur l'ensemble de nos tournées.
Mais elle était avec vous en tournée ou
Elle ne bougeait pas du 50 rue de Mulhouse. C'était vraiment...
extraordinaire.
Oui.
Moi, c'était la période avant Nicole, mais c'est bon, les tournées se faisaient de la même façon.
Oui.
Et ce n'était pas forcément toujours simple quand on a 8 ans, qu'on se retrouve en Autriche tout seul dans une famille. On ne parle pas l'allemand, ils ne parlent pas le français. Il y a des fois des grands moments de solitude. Mais on était toujours accueillis comme des rois.
Ben oui, c'est ça. C'est ça. Alors, je voudrais revenir 2 minutes sur le recrutement. Comment ça se passait pour recruter ?
Ça a toujours été en fait la partie la plus difficile, mais également... celle qui a permis le développement de la manée. En fait, Nicole et Jean faisaient la tournée de toutes les écoles primaires, essentiellement, de Nancy, pour présenter la manée, pour présenter les tournées, pour essayer de faire venir. Et puis, il y avait les fratries. C'est quand même un élément très fort dans cette culture des petits chanteurs. Tu avais le premier, le deuxième, le troisième qui venaient. Et dans certaines familles, ils se sont passés à 4 ou 5. C'est vraiment donc sur plusieurs années. Donc la fratrie était un élément important derrière.
Il y a eu des fils qui sont venus après les pères aussi.
Oui, c'est ça. C'est générationnel,
exact.
En fait.
Exact. Bah oui, sur 40 ans de manée, forcément.
Bah oui. Alors, il y a aussi la question des jeunes filles qui avaient aussi, elles, envie de chanter. Comment ça se passait ?
Ça a été une discussion pendant au moins 40 ans, ça.
Je me souviens, on avait 16 ans à l'époque, donc c'est 73, 74, et Jean, avec la direction de l'époque, commence à envisager le fait d'introduire des jeunes filles dans le chœur. Et c'était une réaction unanime. Ah bah non, C'est-à-dire qu'on les voyait bien en dehors, c'est pas le souci, mais dans le cœur, non.
Mais non, mais il n'y a pas eu, en fait, même au niveau pré-cantores, il n'y avait pas de chorale mixte et chœur de filles pendant ces dizaines d'années. Mmh. Et alors qu'on en parlait quand même de temps en temps, je vais dire une chose qui est presque, un peu machiste, mais on a commencé à y réfléchir quand on s'est dit il y a quand même de moins en moins de garçons possibles et qu'il va falloir trouver un cœur attrape-filles, quoi. Mm-hmm. Et que les filles puissent nous faire venir leurs frères.
Ah oui, c'était ça la démarche.
Comme ça que ça s'est vu. Et effectivement, mais ça ne s'est fait que quelques années avant le retrait de Jean. Mm-hmm. Ça s'est fait avant 2000, quoi. Et on a monté, alors j'étais président de la Manée à l'époque, et on a pu convaincre Agnès Montanella de monter le premier cœur de filles des pré-cantores, enfin de la Manée à l'époque. Mais ce n'était pas un cœur mixte. C'était vraiment les cœurs de filles, demoiselles.
D'accord. Ouais. OK. On va écouter une petite libellule rouge. C'était la petite libellule rouge chantée en japonais par le chœur de la Manée Cantrie des petits chanteurs de Sainte-Jeanne d'Arc.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Alors évidemment, quand on a fait aimer le chant choral comme ça à tant d'enfants, il y en a évidemment qui continuent et il y a des vocations chez certains qui pratiquent le chant choral en amateur, certes, on y reviendra tout à l'heure. Puis il y en a d'autres qui ont entrepris de continuer à travailler le chant, en ont fait même leur métier. Alors il y a qui ?
Essentiellement, deux qui ont décidé en fait, de devenir intermittents du spectacle. Oui. Hein, ils sont donc devenus des professionnels. Et ce fut donc Jean-Sébastien Nicolas et Benoît Porchereau. Jean-Sébastien Nicolas, plutôt baryton basse, et Benoît Porchereau, qui était ténor, et qui en fait, se produisent très régulièrement, vivent de leur passion et de ce qu'ils ont créé avec Jean. D'ailleurs, avec un parcours qui était un petit peu différent. Puisque Benoît Porchereau est venu en fait carrément par, d'abord pas en tant qu'amateur, et puis ensuite s'est formé petit à petit et a intégré des ensembles de très bonne tenue. Alors que Jean-Sébastien, lui, est passé par le conservatoire.
Oui.
Hein, ce n'est pas la même voie, mais maintenant, en fait, il se retrouve carrément sur un pied d'égalité au niveau des concerts qu'ils font.
Et on les retrouve notamment à la Chapelle de Bon Secours avec toute la série des concerts baroques qu'ils y organisent et auxquels ils participent. Et puis Jean-Sébastien a fondé lui-même son ensemble vocal, l'ensemble Vox Pop.
Alors, il a carrément été l'héritier de Benoît Lénig.
D'accord.
Parce qu'il faut se rappeler de Benoît Lénig, qui à un moment donné était celui qui devait succéder à Jean,
oui,
au niveau de, oui, des petits chanteurs. Et puis Jean, c'est toujours difficile de lâcher le manche, de lâcher la baguette de direction.
Oui.
Et Benoît s'est lassé. Donc, il a créé, en fait, un groupe particulier, avec d'ailleurs, déjà à l'époque, Jean-Sébastien et Benoît et d'autres, et Stéphane et certains. Et c'est Jean-Sébastien qui a pris la relève.
D'accord.
Et c'est donc Benoît Lénig qui était...
À l'origine de...
Ah oui,
d'accord.
Tout à fait.
Okay.
Tout à fait.
Benoît Lénig, qui est un des animateurs phares à la cathédrale de Nancy pour les célébrations liturgiques. Voilà, on parlait de Jean-Sébastien Nicolas, de Vox Pop. Eh bien, on va écouter Vox Pop, mais Jean-Marc a quelque chose à nous dire.
Juste,
mais...
Oui, juste, parmi les autres personnes qui ont un peu émergé, oui, des petits chanteurs, oui, je voudrais parler de Michel Jolet.
Ah ben oui.
Qui a fait sa carrière, alors sans doute pas professionnelle, mais quand même réussi, il a fait ses tournées au Japon avec Daniel Milan.
Mm-hmm.
Ça a été une figure locale.
Oui.
Et bon, il y a 2 ans qu'il a arrêté... ranger les baskets.
D'accord. On écoute Vox Pop.
Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Dashing through the snow in one horse open sleigh. All the fields we go, laughing on the way. Bells above the ring, making spirits bright. What fun it is to ride, sing the same song tonight. Ooh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Though the ground is white, go it while you're young. Take the girls tonight and sing the same song. Just get the pop and bay to 40-40 speed. And each into a pop and sing it loud to take the lead. Come with us and hear the jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open. Jingling, 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 open sleigh. Hey!
C'était Jingle Bell par Vox Pop Ensemble, dirigé actuellement par Jean-Sébastien Nicolas. Alors, d'autres groupes ont également vu le jour dans le sillage de la personnalité de Jean. Ce sont les Madrigales de Lorraine, dirigés par Elisabeth Renaudin, votre épouse. Vous allez bien nous en parler.
Ah, je peux, effectivement. en fait, ça a été la continuation du chœur des demoiselles qu'avait créé Jean avec Agnès Montanella. Oui. Et à un moment donné, il s'est passé plusieurs choses un peu compliquées au décès de Jean, avec une petite, enfin c'est souvent le cas d'ailleurs, une petite explosion du groupe, et l'apparition d'un groupe mixte, avec plusieurs chefs de chœur qui sont passés en intérim. Et en finale, on a décidé, avec le président de l'époque, des petits chanteurs, de scinder, cette fois-ci de manière définitive, ce qui restait donc des petits chanteurs et le chœur de filles qui s'appelait les Madrigales.
Mmh.
Et donc ce chœur de filles a été créé à ce moment-là avec Elisabeth, dans le but de développer un corpus de chant spécifiquement féminin, hein, qui n'était pas du tout dans le scope de ce que faisaient antérieurement Jean et la Manet. Et les Madrigales ont avancé très vite. Et d'ailleurs, on vient d'en parler de ceux qui sont issus de ces chœurs de jeunes et qui sont devenus des professionnels, on a eu le même phénomène au niveau des Madrigales, puisqu'on a eu plusieurs jeunes qui sont allés vers le conservatoire directement et qui font des carrières professionnelles ou semi-professionnelles.
Alors, chez les Madrigales de Lorraine, donc le chœur dirigé par Elisabeth Renaudin, il y a aussi des jeunes qui ont continué à faire carrière.
Oui, parce qu'en fait, Elisabeth a continué ce que voulait faire Jean, c'est-à-dire une exigence et une volonté de qualité. Et donc, ne pas faire une chansonnette, etc. D'où un répertoire assez exigeant,
oui,
mais également une formation et un travail vocal. On faisait venir des chanteurs de l'opéra, et des chanteuses notamment, pour faire travailler les jeunes, leur apprendre à développer les voix, pour apprendre à vraiment bien poser leur chant. Et on en a plusieurs donc, qui se sont dirigés ensuite vers le conservatoire et donc vers une carrière professionnelle, dont Marie Mourton, qui est une alto de très très belle tenue. Antoine Magnin, que l'on a eu et qui est actuellement au centre
de musique baroque de Versailles.
Voilà, donc avec une belle évolution. Les deux sœurs Lorraine et Mathilde, qui elles-mêmes ont fait le conservatoire. Oui. Donc on voit bien que cette volonté d'exigence a bien été concrétisée au travers de cette volonté professionnelle. Et puis donc cette évolution qui s'est faite avec participation de nombreux concours.
Oui. on y vient.
On y vient. Que ce soit à Metz ou au niveau lorrain, où on est allé à un concours international qui se passait sur la Côte d'Azur. Et ça a été absolument exceptionnel. On était le seul chœur français. Et les jurés nous ont dit, écoutez, c'est assez rare que les chœurs français viennent se frotter à ces chœurs étrangers, notamment qui venaient d'Indonésie, qui venaient des pays de l'Est, etc., qui sont des chœurs, pour moi, semi-professionnels. Donc ça a été extrêmement intéressant, ces confrontations.
Alors, on va rester aux confrontations régionales, voire nationales, avec un petit extrait de la prestation finale au concours organisé par France 3 il y a quelques années déjà.
Absolument.
Bye.
C'était donc les Madrigales de Lorraine, accompagnés par Philippe Klein au piano et dirigés par Elisabeth Renaudin lors de leur prestation à la finale du concours régional de chant choral. Et puis alors, avant qu'il y ait les Madrigales, chez les plus petites, il y a les Mirabelles.
Il y a les Mirabelles, oui. Dans le paysage qu'a laissé Jean derrière lui, dans le quartier Saint-Joseph, c'est quand même devenu une référence nancéenne. Et donc, effectivement, Anne Burget a monté sa chorale Mirabelle avec les tout-petits.
Alors, elle y a une spécificité, elle prend des grands classiques, elle adopte des paroles.
Oui. Alors, elle prenait, puisque...
Elle prenait, oui, elle a arrêté. Oui.
Elle a arrêté, donc elles sont quand même trois maintenant pour essayer de suivre. C'est beaucoup de travail, je pense.
Ah oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc, les Mirabelles, les Madrigales, et puis alors après, ben... Il y a quoi ? On ne sait pas.
Actuellement, il y a toujours, en fait...
Après, ils rentrent dans d'autres chœurs, éventuellement.
Oui, tout à fait.
Oui, c'est ça.
Il y a eu... alors, le chœur des Madrigales, chœur de jeunes... Alors, le chœur des Madrigales s'est transformé en chœur de jeunes de Lorraine,
oui.
Qui est mixte,
oui.
Mais qui est aussi énormément évolué, puisque, quand je le disais tout à l'heure à propos de la manée de Jean, le problème avec ces chœurs de jeunes, c'est le renouvellement et le recrutement.
Oui.
Et le chœur de jeunes, j'ai en tête des périodes du chœur de Jean Bouillet où on a eu des chanteurs exceptionnels. On a monté le Miséré d'Allegri, je ne sais pas si tu l'as quelque part, mais c'est des pièces qu'on ne peut chanter dans un groupe que si tu as une ou deux voix qui ressortent et qui sont stables. Et ça arrive en 40 ans, ça arrive deux fois.
Oui, c'est ça.
C'est vraiment Et donc cette évolution s'est faite aussi actuellement. Le chœur de jeunes, donc Madrigal est transformé en chœur de jeunes de Lorraine. Les jeunes ont pris de l'âge qui est très très bien.
Mmh.
Et sont passés d'un groupe qui avait en gros entre 12 et 14 ans d'âge moyen à un groupe qui avait entre 16 et 18 ans.
D'accord.
Et après 18 ans, on va en fac, on va ailleurs, on change de région, etc.
Mmh, mmh.
Donc le groupe existe toujours, sous une forme actuellement réduite et en renouvellement, mais continue toujours la tradition d'un répertoire un peu particulier que l'on retrouve dans les derniers CD et d'une qualité qui est extrêmement bonne. Mais Elisabeth s'en sert également comme cœur moteur dans d'autres œuvres plus importantes avec d'autres groupes, comme Voix plurielle, etc.
Oui. OK. Alors évidemment, Jean Bouillet ne pouvait pas être mis sur la touche du Festival international de chant choral. C'est même un des artisans. C'est festival international qui s'est ensuite appelé Nancy Voix du Monde. Et un festival dont une autre grande figure du chant choral sur Nancy était à l'origine. Je veux parler de Michel Vincent, qui était chef de chœur, professeur de musique à l'ensemble scolaire Saint-Sigisbert. Et d'ailleurs, l'un de ses fils, Geoffroy, perpétue la tradition avec son ensemble vocal Les Inscrits, tradition du beau chant choral. Alors on va peut-être un peu parler de ce festival... avec cette formidable équipe qui a enchanté la place Stanislas à de nombreuses reprises lors des concerts de clôture. Je veux parler des Michel Marchand, Michel Thirion, puis il y en a sûrement d'autres que j'oublie de l'époque.
Oui. Alors, le festival, il essaye de survivre.
Oui.
Il essaye de survivre aux coupes budgétaires, même si elles sont compréhensibles, elles sont quand même difficiles à assimiler. Donc, il survit le festival grâce à des personnes, je dirais, il y a la qualité et l'amitié, ces deux choses qui étaient importantes dans les petits chanteurs, qui sont tout aussi importantes, je pense que c'est ce qu'a donné Jean et Michel Thirion, c'est l'ADN du festival, c'est l'ouverture aux autres, c'est l'ouverture au monde, mais c'est beaucoup l'amitié, et les gens qui tiennent actuellement le festival, je veux parler de Pascal Lepage, de Nadine Cadet, de Béatrice Mercier ou de Gérald Picard. Alors, à part Gérald et Nadine, qui sont choristes, Pascal Lepage, le président actuel, ou Béatrice Mercier, ne sont même pas choristes. C'était juste des amis de Michel Thirion et qui ont décidé de continuer après en souvenir de Michel.
D'accord.
Et donc... Ils se battent et on a prévu pour le 16 et 17 mai encore de refaire les saisons du festival, c'est-à-dire accueillir 5 ou 6 chœurs lorrains dans l'après-midi. Et on est en contact avec 1-2 chœurs polonais de bon niveau qui passeraient le samedi soir.
D'accord.
Mais ce furent quand même des événements spectaculaires et phénoménaux.
Ah oui.
L'équipe de formation à l'origine avec Michel Marchand, Michel Thirion, Jean Bouillet, ont vraiment pu intégrer et faire adhérer une douzaine de chorales de Nancy, qui, de manière extrêmement importante, pendant toute la durée des différents festivals, et ça a duré quand même plus près de 15 ans, acceptaient d'héberger pendant 4 à 5 jours les chœurs étrangers qui venaient. Donc, on avait des Polonais,
Ça fait presque 40 ans.
Oui, mais ça a été phénoménal.
C'est presque 40 ans, oui.
Et avec des concerts dissimulés sur tout le Grand Nancy, voire au-delà, avec, comme tu le disais, les concerts de gala, sur la Place Tannes, des moyens phénoménaux. Ouais. C'était vraiment des choses. Sur la Place Tannes, on a eu dans les 15 000 personnes.
Ah oui, c'était après, vraiment... c'était noir de monde à chaque fois.
Tu te rappelles de ça, tu étais au piano d'ailleurs, à chaque fois. Non, non, c'était vraiment quelque chose d'absolument phénoménal. Et surtout, le fait que chaque concert était enregistré, donc, et c'était Benoît Lény qui coordonnait tout ça, donc c'était enregistré, il arrivait tout de suite au local de la Manée. On avait une douzaine de platines d'enregistrement et ils dupliquaient l'ensemble des concerts et ils étaient en vente dès le lendemain.
Ça c'est absolument
extraordinaire. En logistique, c'était phénoménal.
Il n'y a qu'à Nancy qu'on pouvait faire ça.
Globalement, oui, puis surtout avec des gens pareils. Non, mais ça a été vraiment quelque chose de bien. Et ça permettait également de permettre le financement, de permettre le fonctionnement. On a, et ceux qui ont gardé toutes les cassettes de cette époque-là ont des souvenirs merveilleux, de chœurs qui étaient extraordinaires.
Ah oui. Extraordinaires. Oui. Alors, on a parlé de Jean, mais on a évoqué rapidement Nicole. Mais ça, on va peut-être s'arrêter un petit peu sur la personnalité de Nicole.
Ah, Nicole, c'était une personnalité, comme tu le dis. Un peu controversée.
Oui, comme souvent les personnalités.
Mais avec un dévouement sans faille à Jean, d'abord, et au cœur de Jeanne, ensuite. Nicole avait, en fait, les qualités de ses défauts. Hein, c'est-à-dire qu'elle était... Tout le temps, prête à tout faire pour que tout fonctionne et que son Jean puisse fonctionner de manière sereine, aussi bien pour ses répétitions que les concerts, que les tournées. Et donc, elle n'admettait pas que l'on puisse mettre en cause ou que l'on puisse apporter quelque chose qui pourrait déranger Jean, etc. Donc, elle était à ce point, je dirais, accrochée à cette volonté qu'elle pouvait avoir des réactions parfois un peu compliquées. Mais c'était quand même quelqu'un de... le cœur sur la main. Mmh. En fait, si tu veux, c'est difficile de concilier l'apparence qu'elle avait parfois en tant que personne très revendicative sur tous les petits détails qu'il fallait faire et le fait qu'elle acceptait énormément de choses pour que tout fonctionne bien. Mmh. Donc c'est ça, en fait, Nicole. Et elle, je me rappelle, bah, tu devais t'en rappeler aussi, quand elle recevait les garçons, notamment les ténor basses, à la fin des concerts ou des grosses répétitions, hein, et qu'ils venaient tous chez elle, au 50 rue Mulhouse, hein, notamment derrière, pour casser la croûte, manger tranquillement, etc. Oui. C'est elle qui faisait l'unité de tout ça. Les répétitions qu'on faisait, notamment à la Malgrange, hein, on avait des week-ends anti-répétition samedi, dimanche. Qui est-ce qui était au fourneau? Qui est-ce qui était à la préparation? Oui. Qui est-ce qui était au pique-nique? C'était Nicole.
Alors, Nicole, de mon époque de petit chanteur, elle n'était pas encore là. On la voyait. On en rigolait d'ailleurs, parce qu'on rentrait par exemple de tournée, on rentrait de concert le dimanche, le bus nous déposait au 146.
Oui. Ouais.
Oui. Et on voyait, il y avait une petite personne à l'angle de la rue qui guettait le retour de Jean, et c'était Nicole.
Mais elle a toujours été très très présente.
Oui, oui. Oui. Alors, Jean, c'est aussi une grande partie de sa vie, la liturgie, la musique liturgique. Donc, la Manée Country, on le disait tout à l'heure, a assuré bon nombre de liturgies, tant à Saint-Joseph qu'à la cathédrale et que tout même ailleurs, évidemment.
Toutes les grandes manifestations. Je me rappelle de la venue du pape. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça.
Oui.
La Manée était devant, était présente. Et d'ailleurs, on a eu une tradition chez Jean et Nicole, ensuite pendant bien des années, du dîner du pape. C'est-à-dire que tous les ans, à la même époque, se réunissait à l'époque donc, le père évêque, oui. Alors, qui a changé, évidemment, puisqu'il y a eu quelques modifications, le père Le Reboulet, le prêtre de la paroisse, pour parler de cet événement. C'était quelque chose qui nous a beaucoup marqué. Hein, et j'ai encore quelques photos des jeunes qui tendent la main pour saluer le pape sur la place
Carnot.
Oui. Sur la place Carnot, et c'était vraiment... Ça montrait bien cette intégration des jeunes et du cœur de jeunes dans l'Église et dans cette volonté d'animer, en fait, le tout. Donc c'est vrai qu'on a animé énormément de cœurs, que ce soit d'ailleurs en France ou à l'étranger. Je me rappelle d'une tournée, une des tournées en Angleterre, où on a chanté à Canterbury, au milieu de la cathédrale. C'était un truc magnifique, quoi. C'est splendide. Voilà.
Alors, il a fait partie aussi, Jean, de la commission diocésaine de musique liturgique. Et à ce titre, il a permis de développer dans tout le diocèse un répertoire de qualité, chose qui a malheureusement un petit peu disparu maintenant. Et puis alors, on en vient au dernier enfant de Jean Bouillet, c'est le chœur d'hommes du Pays Lorrain, qui est devenu par la suite le chœur Jean Bouillet. Alors Jean-Marc Wettmann, vous nous en dites deux mots.
Alors, au départ, c'était le chœur des amis et anciens.
D'accord.
C'est pour les 40 ans de la Manège, Jean avait contacté un certain nombre d'anciens en leur disant ce serait bien si on pouvait faire un ou deux morceaux pour les 40 ans. Donc on s'est retrouvés, on était, je sais pas, 20 ou 30. On a fait quelques répétitions, on a repris goût à ça, on a fait le concert et à l'issue du concert, on s'est dit est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête ? Est-ce qu'on se sépare ou est-ce qu'on continue ? Le choix a été fait de se continuer, donc une fois par mois, on se retrouvait pour chanter. Buvait un petit coup quand même après.
Normal.
Et puis.
Donc c'est Jean qui dirigeait là.
C'était Jean qui dirigeait, lui. Et puis, une fois par mois, c'est quand même pas beaucoup. On pourrait peut-être essayer quand même deux fois par mois si on veut faire quelque chose. Donc on est passé à deux fois par mois. Alors on chantait, puis on buvait quand même un petit coup après. Là, il y avait
toujours
le frigo en haut.
Plus une fois, mais deux fois
et
par mois.
Et puis on s'est dit, deux fois par mois, mais si on veut avancer, on va le faire toutes les semaines. Et donc on est venu à toutes les semaines. Alors. Après, avec le temps, ça s'est un peu écrémé. Il y en a qui sont partis. Et heureusement, ensuite, il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints. Donc
ce n'était pas des anciens.
Ce n'était plus des anciens, c'était des amis.
Voilà.
Et puis, quand on évoquait quand Jean s'est un petit peu retiré, on est devenu le chœur du Pays Lorrain. C'était le nom qui avait été trouvé. Mmh. On voulait s'appeler Jean Bouillet, mais il n'aurait pas aimé. Donc, on a attendu son départ pour pouvoir prendre son nom et puis maintenir son nom.
D'accord. Il y a eu qui comme chef après lui, alors ?
Alors, après Jean, Dominique Hurier a pris la relève, mais quelques temps, le temps que Daniel... Pas longtemps, je dirais quelques mois, le temps que... Mais ça nous a bien servi. Hein, le temps que Daniel Milan vienne.
Voilà. Donc
Daniel Milan, qui était aussi un grand ami de Jean.
Qui est l'ancien directeur de l'école de musique de Vendeuvre.
Voilà, un musicien qu'on ne présente pas, je pense.
Oui, oui.
Et donc, qui nous a dirigés jusqu'à ce que ses problèmes de santé l'empêchent de le faire. Et donc ensuite, nous avons eu Gérard Hetz.
Oui.
Gérard Hetz, qui lui vient de Metz.
Alors Gérard devait être avec nous ce soir, mais il y a un problème de voiture avec son fils, donc...
Donc Gérard...
Il est là depuis quand ?
Ça doit faire une dizaine d'années, bien.
D'accord.
Ça va nous faire 10 ans. Oui. Et donc Gérard, lui, avait deux autres chorales sur Metz, un chœur d'hommes, mais qui commençait à avoir des problèmes de nombre. Mmh. Et puis le chœur de l'atelier. Le chœur de l'atelier, c'est une chorale répertoire baroque, essentiellement. C'est pareil, alors je ne comparerai pas, je ne veux pas faire de comparaison, mais d'un très bon niveau aussi, avec des gens qui beaucoup suivent des cours de chant particuliers, en plus de leur répétition. Et donc, ils nous feront le plaisir d'être avec nous pour le concert des 30 ans, où ils nous interpréteront la messe de Jenkins, la messe pour la paix de Jenkins.
D'accord. En entier ?
Non,
des extraits.
5 extraits,
je crois. Parce que c'est long, la messe de Jenkins.
Donc, maintenant, le chœur d'hommes s'est renforcé. Alors, je vous ai dit, on a deux chanteurs qui viennent des anciens du chœur d'hommes de Nancy, qui a été récemment. On a un chanteur qui vient du Luxembourg, tous les mardis.
C'est beau.
On en a un qui vient de Bar-le-Duc.
C'est que l'atmosphère doit être vraiment belle.
Voilà. On en a trois qui viennent de Metz.
Ouais.
Bon, le chef vient de Metz. Le pianiste vient de Paris. Alors Jean Didion, c'est un ami de longue date de Gérard Hetz. Et donc, il nous fait l'honneur, enfin le plaisir, et surtout l'honneur de nous accompagner. Et c'est un virtuose.
Très bien. Bon, on va écouter un petit peu le chœur d'homme Jean Bouillet dans Les Bateliers de la Volga.
Alors là, le pianiste, il fait de l'accordéon.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai remarqué en écoutant.
Thank you.
C'était les Bateliers de la Volga dans l'interprétation du chœur d'hommes Jean Bouillet, accompagné théoriquement au piano, mais là à l'accordéon, par Jean Didion, l'ensemble étant dirigé par Gérard Heitz.
Tempo classique sur RCN, Dominique Breda.
Oui, je voulais aussi souligner, quand je disais qu'on était rattaché à Saint-Joseph,
oui,
que c'est grâce à l'association paroissiale Saint-Joseph que l'on a aussi bien le chœur d'hommes que les madrigales, un local.
Ah oui, que le festival.
Que le festival, d'ailleurs, oui, un local pour les répétitions, pour la préparation, etc. Et cela de manière permanente depuis maintenant 40 ans.
Et qui est bien utilisé. Il y a les madrigales, il y a l'ensemble.
Alors, au moins 5 groupes maintenant,
voilà, c'est ça,
mais
oui,
tous dans la même volonté de travail, de perfection. Et je pense que on ne fonctionnerait pas si on n'avait pas ce support logistique, des lieux, etc.
Oui.
Et des travaux qui ont pu être faits à cette époque-là.
Et l'accompagnement qu'on a, le soutien qu'on a par, oui, à travers cette association.
D'accord. Eh bien, écoutez, Richard, Jean-Marc, un grand merci. Je crois qu'on connaît un petit peu mieux la personnalité de Jean Bouillet, de Nicole, des petits chanteurs, de tout ce qui s'est fait autour d'eux, de tout ce qui continue à se faire. Et puis, on vous souhaite bonne continuation, bon concert. On rappelle,
merci,
que c'est le samedi 8 novembre prochain à 20h à la Basilique du Sacré-Cœur. Entrée libre, pas libre ?
Entrée libre.
Entrée libre.
Entrée libre. On peut passer un chapeau.
Oui, c'est au profit d'une œuvre quelconque ?
Non, non, c'est juste en essayant de rentrer dans nos fonds.
Voilà, d'accord. Donc, très bien. On écoute pour terminer Le Cœur des Pèlerins, Tannhäuser de Wagner. C'était le chœur des pèlerins de Richard Wagner, Tannhäuser, toujours l'interprétation du chœur d'homme Jean Bouillet, au piano Jean Didion, à la direction Gérard Heitz. Voilà, merci à Joris pour la technique, merci messieurs de vous être joints à nous pour cette émission,
merci,
et à la semaine prochaine.